Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère, comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est l'histoire d'une promesse qui sera, elle, tenue. Une femme qui promet à une mère au sujet d'un enfant. C'est un récit qui n'a pas grand-chose à voir, il faut bien le dire, avec cet extrait de La Promesse de l'Aube de Romain Gary, si ce n'est qu'il y est question d'une promesse et de l'amour maternel. Mais c'est si beau qu'on peut toujours le dire quand même. Notre promesse aujourd'hui est un de ces serments éternels, solennels, définitifs, prononcés sur un lit de mort. Un engagement pour la vie, un lien qui lie par-delà les frontières, les siècles, les générations. Promis, c'est promis. En gros, ce n'est pas une promesse électorale. Hélène est née au Burkina Faso. Elle a passé sa jeunesse en Afrique, au Burkina, mais aussi au Sénégal ou à Madagascar. Son père était militaire dans l'armée française. Après son bac à Dakar, elle est rentrée en France faire ses études. Elle est devenue infirmière, puis formatrice en ingénierie de la santé. Elle s'est ensuite mariée, elle a eu deux garçons, à qui elle a transmis ce goût de l'Afrique. Toute sa vie, elle n'a eu de cesse d'y voyager, d'organiser sa vie professionnelle et familiale autour de ses mois passés, chaque année, au Sénégal. Et puis soudain, avec la promesse, les liens se sont encore resserrés, tendus, rendus indissolubles comme les liens du sang, et comme on l'entend, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, La Promesse, un récit de Martine Abatte.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai des liens extrêmement forts avec l'Afrique, avec le Sénégal en particulier, parce que c'est là où j'ai passé mon adolescence. Pratiquement tous mes amis étaient africains. Voilà, et c'est eux que je vais voir. Et c'est eux que je vais voir avant tout. Et c'est une jeune femme que j'avais rencontrée ici dans mon travail, qui était africaine et qui m'a parlé de, au Sénégal, une association faite par une femme africaine, Koura, une Sénégalaise, qui dans son village s'occupait d'alphabétiser et surtout d'aider les mamans du quartier à faire les premiers soins aussi à leurs enfants. Quand je suis allée au Sénégal, j'ai rencontré cette femme. Voilà, on est devenus très amis. Je me suis dit, mais je vais pouvoir peut-être l'aider quand je vais là-bas, dans ce qu'elle fait auprès de ses femmes et de ses enfants. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai rencontré un certain nombre de femmes africaines du quartier, dont une jeune femme, Aïssaïta, qui aidait aussi à s'occuper des uns et des autres. Elle était très jeune. Elle devait avoir 17-18 ans quand je l'ai rencontrée. Elle était mariée donc à un monsieur extrêmement âgé. C'était un vieillard et qui avait déjà 4 épouses. Et elle a été complètement rejetée. D'ailleurs, elle était la seule à ne pas vivre dans le groupe femme avec les autres. Elle a été rejetée, elle a été sûrement maltraitée par ses co-épouses. Voilà. Et donc, on a sympathisé. Et puis... Une année, je vais là-bas, cette jeune femme venait d'accoucher de deux petits enfants qui étaient des jumeaux. Et très souvent en Afrique, les jumeaux s'appellent Adam et Ève. Donc c'était la petite fille s'appelait Awa et le petit garçon Adama. Et puis j'apprends en arrivant à Dakar, Aïssaïta, je crois qu'elle s'appelle, est malade. Et donc j'y vais tout de suite. Effectivement, elle était malade, pas d'argent pour se soigner. Elle n'avait pas vu de médecin et on voyait bien qu'elle était atteinte avec ses deux petits enfants. Quand je suis arrivée, mon mari est venu aussi et mon mari est médecin. Et donc, on a tout de suite essayé de faire un diagnostic par rapport à ce qu'elle avait. On est allé à l'hôpital et on a découvert une tuberculose. Et on avait décidé de la soigner, sauf que c'était trop tard. Elle était en train de mourir. Et donc, je l'ai plutôt accompagnée, je suis restée avec elle. Elle a tout de suite compris qu'elle était gravement atteinte et qu'elle était en train de mourir. Et elle m'a dit, et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et je lui ai dit, je te promets de m'occuper de tes enfants, voilà, jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Et je m'en occuperai comme mes propres enfants. Et puis, c'est une promesse très profonde. Et elle est morte vraiment quelques jours après. Et donc, j'avais fait cette promesse. Et donc, la promesse de s'en occuper, je la faisais à travers l'association, en demandant à Koura de s'occuper particulièrement de ses deux enfants. Donc on envoyait de quoi faire vivre cette association, mais en même temps, une petite enveloppe pour Awa et Adama. Et puis, un jour, on apprend que Adama avait eu aussi une tuberculose, donc avait été contaminé par sa mère, et qu'il était mort aussi de cette tuberculose. On ne nous avait pas avertis, et on n'avait donc pas pu faire en sorte de le soigner. Et donc Adama est décédé. Donc il restait à Oua. En Afrique, on a l'habitude de dire que ces enfants qui survivent comme ça à plein de choses, c'est déjà, parce que sinon un enfant qui est la fragilité, une simple fragilité, fait que l'enfant meurt au moins à la moindre occasion. Et alors, c'était la force, une force inouïe quoi, hein, de cet enfant. Et Awa a été placée chez une grand-mère. Elle avait 3 ans et demi. Et donc là, je suis repartie au Sénégal. Et quand on est arrivé là-bas, on a trouvé Awa chez cette grand-mère. Et cette grand-mère était complètement grabataire. Et Awa, qui avait 3 ans et demi, s'occupait de tout. De la laver, de laver le linge, de porter l'eau, d'amener l'eau dans cette case hein, où elle vivait, qui n'était pas une case en dur, qui était une case en tôle, voilà, à Thiès, dans un quartier de Thiès. Et donc, quand on est rentré dans l'avion, notre fils nous a dit « Je ne comprends pas ce qui se passe, là. » On est allé voir cette petite fille, et là, on dit qu'on s'occupe d'elle, et en fait, on la laisse, on part, on repart en avion, et on la laisse dans il avait été très choqué par l'endroit où elle était, dans cet endroit où c'est très sale, où elle travaille, où elle fait tout, où je sais pas si elle a à manger correctement, et puis elle était en guenille. Voilà. Et il a été extrêmement choqué, petit garçon de 4 ans, complètement choqué par cette situation. Et c'est vrai qu'on a pris conscience dans cet avion que c'était complètement surréaliste. C'était surréaliste. À ce moment-là, j'ai essayé de contacter son père et il n'était pas très intéressé. Il se demandait ce que je voulais. Voilà. Et donc là, j'ai discuté avec une tante et elle, je lui dis, est-ce que vous pourriez vous occuper personnellement de Dawa? Et elle me dit, non, moi j'ai mes enfants, je ne veux pas m'en occuper. Bon. Et puis on était complètement démunis et à ce moment-là, on s'est posé la question si elle ne pouvait pas venir en France. Et c'était notre petite fille, une petite fille. On avait promis de s'en occuper et c'était pas possible qu'on la laisse comme ça. Et on avait, chaque fois qu'on allait au Sénégal, elle était avec nous. Et moi, je restais à peu près 2-3 mois au Sénégal et elle était avec moi. Et je pensais que ça pouvait la structurer autrement que, comme elle avait vécu jusque-là, tirailler entre les uns et les autres, changer de famille tout le temps. Enfin, c'était assez terrible pour un enfant. On ne peut pas se construire comme ça. Et donc a mûri cette idée que finalement, on pouvait faire une adoption. Et on pouvait faire une adoption simple. Quand on a fait cette adoption, on a rencontré un psychiatre, qui sont des psychiatres agréés. Chaque membre de la famille est rencontré séparément. Et bon, on donnait un peu nos motivations à adopter. Et on voulait, la difficulté qu'on avait, c'était qu'on voulait adopter cette petite fille, ce qui ne se fait absolument pas. Donc il fallait chaque fois qu'on explique pourquoi, pour nous, c'était important d'adopter Awa. En fait, ce qui a été déterminant, je crois, pour ce psychiatre, c'est que quand il a rencontré notre plus jeune fils, Quentin, il dit « Je comprends pas, toi, pourquoi tu nous empêcherais que cette petite fille vienne nous voir ?» Puisque nous, on est une famille, et elle est une petite fille qui n'a pas de parents, pas de maison, et nous, on veut bien l'accueillir avec nous. Quel est le problème ? Et le psychiatre... À ce moment-là, s'est tourné vers moi. Il m'a dit, écoutez, je crois que là, il n'y a rien à rajouter. Et je ne vais pas créer d'obstacle à ce qu'elle puisse venir. Donc, on a eu l'autorisation pour qu'elle vienne. Et donc, il me restait à aller chercher Awa. Et donc là, j'ai eu toutes les peines du monde. Je pense qu'il s'est passé au moins 2 ans avant qu'elle puisse sortir
pour obtenir
le visa. Et donc, je suis allée chercher Awa. Awa est donc venue à la maison. Elle était à la fois effrayée, mais à la fois heureuse, à la fois surprise, à la fois émerveillée. C'était une histoire pour elle, c'était extraordinaire, quoi. Elle s'était fait très vite plein d'amis, et donc ça s'est très 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 bien passé. Très rapidement, Awa a suivi le CP. Et au bout de 3 mois, elle est même devenue première de sa classe en CP. Elle avait une énergie incroyable à vivre. Au bout d'un an, on doit avoir, par le tribunal de grande instance de Thiès, devait nous envoyer un papier qui faisait signer par le père d'Awa, disant que le père déléguait l'autorité parentale définitivement, en gardant, il était toujours le père, puisque c'était une adoption simple, mais il déléguait cette autorité parentale définitivement à nous. Et puis on attendait ce papier qui ne venait jamais. Et nous, je dois dire qu'on a quand même gardé Awa. On avait un passeport Schengen pour elle, mais on n'avait pas de papier comme quoi c'était notre fille. Donc elle était dans l'illégalité. Donc l'avocat nous a dit, si vous ne ramenez pas Awa, moi je refuse de continuer à m'occuper de vous, et vous surtout, vous pouvez être accusé d'enlèvement d'enfant, tout simplement. Donc elle est restée 18 mois en France, dans notre famille, avec tout ce qu'elle vivait en France. Elle allait à l'école, elle était complètement intégrée à une vie sociale, on l'amenait partout, on voyageait avec elle, elle connaissait toute la famille, ses grands-parents, en quelque sorte, français d'adoption, voilà. Et elle était extrêmement bien intégrée dans toute cette famille. Et puis tout d'un coup, il a fallu qu'on la ramène et que je lui dise un jour, écoute, on va prendre l'avion. Et donc on a fait les valises.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc, je suis repartie avec Awa. Je ne lui disais rien de que je ne savais pas, de faux. Je lui disais, on fera tout pour que tu puisses, on puisse garder ce lien, éventuellement que tu puisses revenir, mais je ne sais pas comment ça va se produire. Parce que l'avocat m'avait quand même averti que si elle repartait sans les papiers, l'adoption, tous les papiers d'adoption, c'était fini. Il fallait tout recommencer à zéro. Et donc, du coup, le fait qu'on la ramène, ça terminait quelque chose. Et dans l'avion, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout le long du voyage. Tout d'un coup, il y a eu ça a été violent pour moi. Et j'ai pleuré. Et là, Awa m'a vu pleurer, évidemment. Et donc, elle m'a dit, « Maman, est-ce qu'on peut faire autrement ?» Et je lui ai répondu, « Ben non, si on pouvait faire autrement, j'aurais fait autrement. » Et elle m'a dit, « Ben, puisqu'on ne peut pas faire autrement, ça va aller. » Et donc, on est arrivé à Dakar. Et là, à Dakar, l'horreur, parce que personne n'était là pour nous attendre, donc pour l'attendre, elle, personne. Et l'avocat me dit, il est impossible que vous l'ameniez à l'hôtel avec vous, parce que la police peut débarquer en disant, qu'est-ce que vous faites avec une petite fille qui n'est pas à vous, à l'hôtel, vous pouvez l'avoir kidnappée. Que faire? C'était la question. Donc, j'ai rappelé cette tante. J'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, ben, on n'est pas là. Il n'y a personne. Elle me dit, ben, t'as qu'à la garder. T'as qu'à la garder à Dakar. Voilà. Et là, comme je ne savais pas si c'était une manœuvre ou pas, j'ai pris un taxi. Et quand je suis arrivée chez la tante, elle était là. Et puis j'avais un témoin, j'avais Youssou, qui est le monsieur qui est le taxi, qui connaissait bien l'histoire, donc bon, voilà. Et là, elle est restée là. Et puis le père est venu me voir. Et là, le père m'a demandé de l'argent. Il me dit, tu peux la reprendre, mais tu me donnes une somme assez importante, très importante même, avec après une rente à vie. Et là, j'ai dit, mais là, ça ne va pas. Et la personne qui traduisait, qui était avec elle, qui était quelqu'un du village, du quartier, à Thiès, m'a dit, non, mais là, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut qu'on fasse un palabre, qu'on organise une discussion officielle. Donc, du coup, on était assis dans une... la maison du chef du village, de ce quartier, sous un arbre, il y avait des bancs qui étaient disposés en U. Et donc, il y avait tout un rituel. D'abord, on part du passé. Qu'est-ce qui s'est passé au départ et qui a fait que j'ai voulu adopter cette petite fille? Donc, la promesse qui revenait. Et le père, il n'avait pas du tout la notion de cette promesse. Pour lui, c'était des Européens qui veulent un enfant noir. Et là, le père dit que, comme je veux cet enfant, lui, il veut bien me la vendre. Il veut de l'argent. Il veut de l'argent. Et là, je prends la parole et je m'adresse au père. Et je lui dis, toi, tu es de race noire. Moi aussi. Alors là, stupéfaction. Je lui dis, moi, mon père, il est noir. Mon père est martiniquais. Il a rencontré ma mère qui est blanche. Hein, donc moi, je suis métisse. Mais mon père, il est d'une famille d'esclaves. Donc toi aussi, tu sais bien que les noirs, on a été des esclaves. Et que toujours, on s'est battu pour que aucun homme ne puisse acheter un autre homme. Et donc là, si je te donne de l'argent, c'est comme si j'achetais. Awa. Et ça, c'est impensable. Et je préfère que Awa reste ici. Je préfère ne pas avoir Awa. Je préfère plutôt qu'elle se construise en imaginant qu'on l'a achetée comme un esclave. Et là, il m'a plus regardé. Et il a baissé les yeux. c'est un signe de respect aussi là-bas. Il a dit, ce que tu viens de dire est tellement fort et tellement important que je ne peux plus te regarder dans les yeux tellement j'ai honte d'avoir traité ma fille comme une esclave. Voilà. Et à ce moment-là, l'animateur a dit, là, c'est Hélène qui a raison. Donc moi, je lui dis, écoutez, jamais rien n'est perdu. Voilà. Là, par contre, je ne peux plus la ramener. Et puis, ce n'est pas un objet, Hawa. Là, on a décidé qu'elle allait être là. Par contre, elle est ici et je peux l'aider à ce qu'elle continue à aller à l'école et vous pouvez l'aider aussi. Et mon objectif, c'est qu'elle aille à l'école, qu'elle ait un métier et qu'elle puisse, elle, se débrouiller toute seule et qu'elle ait un projet de vie. À ce moment-là, le père a dit, dans ces conditions, moi, je ne peux rien faire pour elle. Je ne peux pas. Et là, j'ai dit, je vais demander à la tante qui a accepté de garder Hawa. Ça a dû durer 2 ans. Et puis une année, j'arrive chez la tante et on me dit qu'Hawa n'était pas là. Je commençais à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, cette tante me réclamait de plus en plus d'argent. Et puis, un jour, je reçois un mot de l'école qui me dit « on ne voit plus Hawa ». Elle n'allait plus en classe et elle n'était pas là. Et je suis allée chez la tante et la tante m'a dit « non, je l'ai mise chez un oncle qui est militaire parce que je ne pouvais plus la garder ». Et je lui dis, mais comment ça se fait, puisque c'est à toi que j'ai envoyé l'argent. Oui, mais je l'ai donné à cet oncle. Il est dans une caserne à Saint-Louis, une autre ville du Sénégal. Et donc là, je suis partie à Saint-Louis et j'ai fait toutes les casernes de Saint-Louis. Ça a duré 3 ans. Chaque année, j'y allais au moins 2 fois par an et je passais mon temps à la chercher. Et un jour, Youssou, qui est le monsieur qui est le taxi, Youssou m'appelle et il me dit, Hélène, j'ai vu Hawa dans les rues de Thiès. Je lui ai parlé. Il lui a dit, Hélène te cherche. Voilà. Et elle lui a simplement dit, en passant, je ne peux pas l'appeler. Je sais qu'elle me cherche, je ne peux pas l'appeler. Et je suis chez un oncle, mais je suis très bien. Et il lui a dit, est-ce que cet oncle est militaire? Elle a dit non. Et elle lui a dit le nom de son oncle. Donc, quand je suis vite repartie au Sénégal, et Youssou qui est venu me chercher à l'aéroport, et Youssou me dit, j'ai le nom, donc je peux retrouver moi les coordonnées de ce monsieur. Il savait où Hawa allait à l'école, donc il est allé surveiller et il lui a fixé un rendez-vous post-licence, pour tout dire. Et effectivement, un jour, à la sortie des classes, et donc elle est passée par là en sortant des classes, et là j'étais là, et là elle m'a dit, je savais que tu me retrouverais. Donc ça a été très rapide. Et donc là, j'ai appelé l'oncle. Je lui ai dit, écoutez, moi je veux vous rencontrer. Et il m'a dit, oui, mais vous voulez kidnapper Hawa. J'ai dit, pas du tout. Hawa, si elle est bien là où elle est, il n'y a aucun problème. Et je crois qu'elle est bien. Et donc là, il a accepté. Il m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Elle fait partie de notre famille maintenant, et voilà. Et là, on est restés très liés, on se côtoyait, voilà. Et c'était ma famille sénégalaise, et nous, on était leur famille de France. Et j'ai toujours beaucoup d'affection pour eux. Et donc, on a continué à aider cette famille. elle avait Awa qui était chez elle, qui continue à aller à l'école, qui a fait un, qui est allée après et qui a eu son, son bac, voilà. Donc elle a et eu elle a eu son diplôme, son BTS. Diplôme de BTS qu'elle a obtenu l'année dernière en tourisme.
Comment ça se termine finalement cette histoire, à votre histoire avec Awa? Enfin, c'est pas terminé d'ailleurs, mais comment est-ce que vous avez tenu votre promesse?
Ben, moi, je considère que j'ai tenu ma promesse. Et la promesse n'était pas qu'elle vienne ici. La promesse, c'était qu'elle puisse aller à l'école, que je puisse m'occuper sur le plan affectif, qu'elle se construise en tant que femme, avec tous les éléments d'une construction qui puisse se projeter dans l'avenir. Donc, il y avait le fait qu'elle ait de l'affection, de la tendresse, qu'elle ait une famille, le fait qu'elle aille à l'école et une éducation. Donc ça, c'est accompli, je trouve. Mais ça a engendré d'autres choses. Ça a engendré le fait que maintenant, elle fait partie de notre famille. Donc c'est rien n'est fini. Je crois que c'est pour l'éternité, quoi.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et La Promesse, un reportage de Martine Abad réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Hélène Juvigny, à Patricia et à Sylvain. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Liana Valken, c'est notre stagiaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux. N'hésitez pas non plus à vous réfugier par cette chaleur dans les salles de cinéma. Il y a de très beaux films à voir, et notamment un en partenariat avec France Culture qui s'appelle Nothingwood et que je vous recommande chaudement, si on peut dire. Les mères, oh, 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 les mères, oh.